17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver. Grand témoin aujourd'hui, Yasmina Selam, que j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir de brefs passages à Paris. Alors, Yasmina Selam, c'est un monument. Alors, il y a des gens qui font... Bonjour Yasmina,
bonjour.
Merci d'être présent.
Merci de me recevoir.
Alors, on sait que les animaux parlent, depuis Jack London, hein, qui fait parler les chiens, les animaux, etc. Et puis, aujourd'hui, on sait que les arbres parlent, que les feuilles parlent. Et vous faites parler des animaux.
Tout
alors, vous avez commis un livre qui s'appelle « Mémoire culinaire de l'Algérie
oui. »,
hein, bien sûr avec une histoire de recettes. Un livre extraordinaire que je conseille à tous les amoureux à la fois de la culture et puis aussi de la gastronomie. C'est bientôt les fêtes
oui.
Et c'est un très beau livre, c'est un beau livre et je le recommande en tout cas. Et vous allez comprendre pourquoi dans cette émission, qui est un livre un petit peu révolutionnaire et qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les librairies. Et alors, Yasmina Selam, vous faites parler des aliments. Les aliments ont une âme ?
Oui, ah oui, totalement.
Ouais, ouais.
Ils ont une âme qui est liée à l'âme des personnes qui les préparent, à l'âme des personnes qui les... vous savez, l'homme a toujours mangé ce qu'il y a dans son biotope, c'est-à-dire dans son écosystème. Et donc le lien entre cet homme et son milieu, il se traduit dans son assiette. Et donc c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de relations...
Et puis, et brutalement, vous nous apprenez que même les premiers hommes,
oui,
déjà, mangeaient al dente.
Tout
c'est,
à fait.
C'est pas une découverte de ça. Déjà, les premiers habitants sur Terre mangeaient al dente. Expliquez-nous ça.
Alors, l'homme, cueilleur et chasseur, ne connaissait pas le feu. Il ne savait pas cuisiner et donc il mangeait, mais il choisissait. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Par rapport aux végétaux, il prenait les végétaux qui avaient un bon parfum, qui avaient une texture agréable. La viande, il la mangeait crue. Mais quand il a découvert le feu, enfin il a découvert, il connaissait le feu, mais il a découvert le fait que prendre des aliments et les passer au feu, ça les rendait plus tendres, ça les rendait plus goûteux, plus parfumés. Et alors il s'est dit, il faut que je... Et c'est là où est née la gastronomie. C'est là où l'homme a commencé à se dire, les aliments doivent passer par le feu pour devenir meilleurs. Seulement, il ne savait pas allumer le feu. Il connaissait le feu de la foudre, les feux naturels, il ne savait pas le faire. Et vers 400 000 ans, il a commencé à produire du feu. Et là, une révolution...
Alors qu'il l'avait découvert 400 000 ans avant.
Oui, c'était 8 000 ans avant, le feu existait, l'homme le connaissait. Mais à 400 000 ans...
Il a apprivoisé le feu.
Il a apprivoisé
Il l'a domestiqué.
Il l'allumait, il l'éteignait, il le rallumait, et donc ça ne le dérangeait pas. Et là, il a commencé une vie... sociale
une
autour
sociale.
Du feu.
Alors, dans la vie sociale, j'ai remarqué vous n'intégrez pas, par exemple, les relations sociales comme les définit Desmond Morris dans Le Singe Nu.
Oui.
Dans la relation sociale de l'alimentation, il y a aussi une relation sociale de séduction. Et vous ne parlez pas de la séduction dans votre livre. C'est volontaire ou c'est sur le tome 2
Peut-être pas. J'en ai pas parlé parce que là, moi, je suis cuisinière. Donc, je vois le côté cuisine.
On sait que l'alimentation, la gastronomie, oui, c'est un élément de séduction.
De séduction, exactement.
Hein? Mais vous n'en parlez pas dans votre livre.
Je n'en parle pas parce que, je ne sais pas, peut-être que je me suis censurée moi-même. Parce que ce livre, il est surtout dédié aux Algériens, aux étudiants qui veulent se spécialiser dans l'histoire de l'alimentation mondiale et surtout l'histoire de l'alimentation algérienne. Et donc, je me dis, je leur donne un document académique, donc loin de la culture et du fruit.
Oui, mais on est quand même on parlait du sucre, etc. Et on sait, oui, que les aliments sucrés intègrent aussi disons, ce qu'on appelle la jouissance.
Oui.
C'est la compensation, c'est la récompense.
Et
ça, vous n'en parlez pas beaucoup, mais on y reviendra. Donc, un livre extraordinaire, Mémoire culinaire de l'Algérie, un voyage à travers les temps. Et les recettes que vous donnez à la fin, on en parlera tout à l'heure. On parlera, mmh, du couscous, on parlera,
oui,
d'autres plats, bien sûr. Vous pénétrez dans l'histoire de l'alimentation, dans l'histoire de l'Algérie, et pour vous, l'histoire d'un pays, de l'Algérie en particulier, oui, puisque c'est de l'Algérie dont vous parlez, peut se décliner à travers son alimentation?
Complètement. Parce que j'ai trouvé des recettes dans des livres qui décrivaient des guerres. J'ai trouvé des recettes dans des livres de poèmes. Et donc, dans toute notre vie, dans l'éventail des éléments de notre vie, l'alimentation est là. On règle ses problèmes de guerre autour d'une table, autour d'un repas. On s'entend sur les négociations se font toujours
autour du calumet de la paix aussi. Hein. Les Indiens, c'était autour d'un calumet.
Mais dans l'Orient, c'est toujours l'alimentation. Et nous, nous sommes apparentés à l'Orient. L'Algérie, quand on voit des gâteaux algériens, on dit les gâteaux orientaux, même si nous sommes l'Occident musulman.
Et puis vous nous parlerez aussi comment on passe de l'alimentation couchée à position debout. Hein, les Romains qui découvrent ça, vous nous parlerez aussi dans cette émission. Yasmina, il y a quelque chose que je ne sais pas comment vous y êtes pris. Comment vous définissez une cuisine algérienne, une cuisine marocaine, une cuisine tunisienne, quand vous remontez comme ça le temps, les frontières n'existaient pas, les nations n'existaient pas, même s'il y avait des empires. Hein.
Il y avait un
sentiment national, c'est clair. Mais comment vous... Il y a un trait, ces traits-là ont été dessinés par la colonisation, quelle qu'elle soit. Hein, et vous dites, voilà, ça c'est l'Algérien, ça c'est marocain, ça c'est français, ça c'est italien. Comment vous faites ?
Alors, comment, surtout pour la rive sud de la Méditerranée que j'ai traitée, c'est vrai qu'il n'y avait pas de frontières. Seulement, il y avait des peuplements, il y avait des ethnies. Et ces ethnies sont là, elles mangeaient de la même façon, elles avaient les mêmes habitudes alimentaires. Et puis, l'Afrique du Nord, elle a subi beaucoup de va-et-vient et de cultures, de colonisation, à commencer par les Phéniciens jusqu'aux Français.
Mais justement, je vous arrête là, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que vous allez un peu à l'encontre de l'idée reçue qui dit qu'il peut... Par exemple, on parle souvent de la cuisine algérienne qui s'est faite par strates, par succession.
Tout à fait.
Et vous dites, c'est le résultat, de choses, de sédiments, d'aliments qui sont venus. Mais vous dites, non, attention, il y a les chasseurs-cueilleurs qui avaient aussi des pratiques. Et puis, il y a la cuisine berbère, il y a la cuisine des premiers. Donc, il y a une cuisine originelle.
Il y a toujours une cuisine originelle. Dans tous les pays du monde, il y a une cuisine originelle, mais elle reste primitive et il y a toujours des influences. Toujours. Vous savez, le couscous, il est traditionnel au Brésil. Ils ont des plats traditionnels qui s'appellent couscous. Ça veut dire que l'homme... Moi, je suis arrivée ces derniers temps à une conclusion. Les recettes du monde n'appartiennent à personne. Elles appartiennent à l'humanité. Parce que chaque recette...
C'est comme les langues. Les langues appartiennent à l'humanité.
Chaque
langue n'appartient à aucun pays. Bien sûr.
Donc, c'est la même chose pour la cuisine. Chaque recette a une forme primitive quelque part sur Terre et elle s'est transformée. On lui a ajouté des choses, on lui a greffé des choses jusqu'à ce qu'elle devienne ce que nous connaissons
par
maintenant.
Par exemple, et vous parlez d'un plat touareg, un plat originel qui s'appelle le tarfagar.
Oui. Ah ben, c'est un plat primitif. Avant qu'il y ait des ustensiles de cuisine, les hommes primitifs, comment ils cuisinaient? Ils ont découvert, donc vous avez le paléolithique. Les hommes n'avaient pas d'instruments, c'était des pierres taillées. Après, c'est la pierre polie. Là, ils ont commencé à avoir de vrais ustensiles de cuisine. Et donc, ils réduisaient leurs poudres, leurs graines, que ce soit des graines céréales ou des graines légumineuses, en poudre, et qu'ils cuisinaient. Après, ils n'avaient pas d'ustensiles.
On va rentrer dans les plats, là, tout de suite après la pause. Vous nous avez donné l'eau à la bouche, là, on continue.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Et surtout avec Yasmina Selam, on continue ce voyage culinaire, cette mémoire culinaire de l'Algérie à travers les siècles. Et d'abord, on est à la radio, donc vous la voyez pas, mais vous la verrez en photo sur Facebook lorsqu'on fera la promotion de cette émission. Un petit bout de bonne femme. Vous aimez manger? Vous aimez la bonne chair?
Ah oui.
Vous aimez ça, on sent que vous aimez, on sait que vous êtes attiré par la beauté de l'élément culinaire. Et ça vous vient d'où ça? Les parents, la culture?
Parce que j'ai grandi dans une famille où ma mère cuisinait, ma grand-mère cuisinait, ma grand-mère cuisinait, mes tantes cuisinaient. Elles m'ont pas appris de recettes, mais je les ai vues faire. Et après, j'ai reproduit.
Mais quand vous les avez vues faire, oui. Vous avez vu qu'il y avait de l'amour dans ce qu'elles faisaient.
Complètement.
Et c'est pas ce qu'elles faisaient qui vous a attiré. C'était l'amour et ce qu'elles mettaient dans, comme énergie et comme amour dans les plats qu'elles faisaient. Et c'est ça.
Ils
c'est ça
qui
vous a donné envie
plats.
De le faire.
Mais elles le faisaient tellement avec amour pour nourrir tout le monde. Est-ce que c'est bon? Attends, toi, je te rajoute ça et tout. Il y a toujours. Et puis, elles cuisinaient naturel. Ma grand-mère allait dans les champs chercher des herbes pour nous
faire. On reviendra sur ce naturel, hein, parce que vous parlez justement de la cuisine traditionnelle, naturelle, la cuisine paysanne. La cuisine du peuple, celle qui est à la mode aujourd'hui, y compris dans le monde entier.
Tout à fait.
Et alors, cette cuisine algérienne, elle est à la fois spécifique, elle est à la fois locale, elle est à la fois complètement liée à l'identité algérienne, en même temps universelle, Yasmina.
Tout à fait. Ah oui, mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est que cette cuisine qui est universelle, qui est saine, qui est surtout saine et diététique, elle est méconnue. C'est maintenant que le monde est en train de découvrir cette cuisine algérienne. Elle est alors qu'elle a la prétention d'être une des meilleures cuisines du monde. Même si moi, je suis contre le classement. Ça, c'est... je trouve que c'est une aberration humaine de classer les gastronomies.
Vous savez, on classe les gastronomies, on dit il y a la cuisine méditerranéenne, il y a le régime crétois, etc.
Oui.
Mais moi, par exemple, qui suis originaire de Kabylie, la cuisine crétoise, la cuisine méditerranéenne, je l'ai fréquentée tous les jours.
Tous les
gens marchent à pied, les gens mangent
l'huile d'olive.
Donc voilà. Et ces cuisines sont en train de s'institutionnaliser dans la mesure, par exemple, en Sicile aujourd'hui, l'État italien en Sicile a décrété dans toutes les écoles la mise en place du régime crétois.
Donc c'est
cuisine algérienne, elle est méditerranéenne, elle est crétoise.
Tout à fait. Donc, les bons côtés de cette cuisine existaient. Nos parents, nos grands-parents, tout le monde a mangé cette cuisine. Donc, on l'appelle crétois. Moi, je trouve que non, il faut dire méditerranéen.
Alors, comment vous expliquez que cette cuisine algérienne, c'est un peu l'enfant pauvre de ce que je dirais, pas du marketing, mais de... On entend parler toujours de la cuisine marocaine, la cuisine italienne, la cuisine française. Et on a l'impression que la cuisine algérienne, elle s'excuse. Excusez-moi d'exister. Vous savez, là, dans tel arrondissement d'Alger ou de Paris, vous avez trouvé un restaurant... On a l'impression, pourquoi c'est un peu, entre guillemets, je dirais, l'enfant pauvre. Je dirais, du monde culinaire.
Tout à fait. Je vais vous le dire, moi, c'est ma constatation personnelle. C'est que l'Algérien lui-même n'est pas convaincu de la cuisine. Il mange la cuisine de sa maman, il trouve que c'est la meilleure au monde, mais s'il doit ouvrir un restaurant, il ne ferait pas de la cuisine algérienne. Et ce qui est plus grave, c'est que ils connaissent quelques recettes, ils ne cherchent pas à connaître les recettes des autres régions pour avoir un rôle national. Ils ont des rôles locaux. Il vient de Tlemcen, il va défendre la cuisine tlemcenienne. L'autre vient de Constantine, il va défendre la cuisine constantinoise. Vous lui parlez de la cuisine d'une autre région, il ne la connaît pas. Donc je trouve que l'erreur est dans l'Algérien lui-même. Il n'est pas là pour défendre une cuisine nationale et il ne la connaît même pas. Il connaît celle de sa mère, de sa région et de son village. Donc, il ne faut pas en vouloir au monde, il faut s'en vouloir à soi-même.
Et c'est vrai que longtemps, en Algérie comme ailleurs d'ailleurs, on a mis de côté un peu ces cuisines dont on parlait tout à l'heure, ces cuisines traditionnelles. C'était pas bien de manger ça.
Oui.
Je pense au plat du pauvre, qu'on appelle tétouko de babine, ou le pain dur, roma khouran, ou des choses comme ça. On les mettait de côté. On disait non, il faut.
On les mange avec maman.
Ouais, il faut manger beaucoup de viande pour être urbain, la cuisine urbaine, la cuisine développée, cuisine de la high society, de l'Europe, du mélange. Alors que vous-même, vous dites que la viande, même nos anciens, n'en voulaient pas.
Ils ne mangeaient pas.
Le carnet, c'est arrivé très tard.
Très tard. Et on en mangeait selon les occasions. l'Aïd, je ne sais pas, le Ramadan, on mange un peu plus de viande que d'habitude et tout. Mais la cuisine de tous les jours, elle est presque sans viande. C'est du végétal, c'est de l'huile d'olive. Il n'y a pas de beurre. Le beurre, on l'utilise une fois par hasard. Alors, on a une petite quantité de beurre là et on l'utilise quand il y a un invité, quand on veut l'honorer, mais on n'en mange pas.
Et comme un boomerang, ça nous revient en pleine tête. Tous les écolos, hein, de René Dumont à Pierre Lapri, en passant par Jean Latour, vous avez des gens qui revendiquent la végétalisation et qui disent, attention, la viande, d'abord, les animaux, ils ont une âme, etc. Déjà, faut pas les abattre n'importe comment. Et puis, finalement, il y a tout un tas de maladies qui sont véhiculées
par l'excès la viande. De viande.
Voilà. Ça veut dire qu'on a du mal à apprendre, on a du mal à comprendre l'héritage des anciens. C'est qu'est-ce qui se passe?
Les Algériens ont souffert, surtout durant la colonisation française. Ils ont crevé de faim. Ils se sont mis à manger. Ils mangeaient comme leurs ancêtres, mais ils étaient obligés aussi, pour ne pas crever de faim, d'aller dans les champs chercher. Vous savez, on fait un couscous à base de gland, un pain à base de gland. On mange même dans une région de Djigel, on mange un plat qui s'appelle Eyerni. C'est à base de racines d'arôme. L'arôme est toxique. Ils ont trouvé le moyen de le rendre pas toxique et de faire un plat à l'huile d'olive délicieux. Donc, ce qui fait que, une fois l'indépendance acquise, les gens se sont mis à renier cette cuisine qu'ils ont mangée au moment des douleurs.
Parce qu'elle leur rappelle,
les souffrances. Exactement.
D'ailleurs, il y a cet aspect des choses. Il y a aussi l'aspect que la colonisation a déplacé des pans entiers de la culture, y compris gastronomique, en dehors de l'Algérie. Oui. Et je pense au Moussem, par exemple, qui étaient des lieux de rencontres gastronomiques. La colonisation les a asséchés, et ces Moussem se sont réfugiés au Maroc et ailleurs.
Tout à fait.
Ça, c'était quelque chose de très
concret. Ah oui, le premier repas de la journée du berbère, c'était du salé. C'était aroma Coran, zit, et voilà. Et maintenant, c'est le croissant, café au lait bien sucré, avec beaucoup de crème et tout.
J'attrape votre mot,
en vol.
Le sucre. Alors, le sucre.
Le sucre, oui.
Vous nous dites, c'est les musulmans, c'est les arabes qui l'ont popularisé, etc.
C'est vrai.
Le sucre, il arrive bien avant les musulmans, bien avant les Turcs.
Oui.
Il apparaît déjà sous Darius.
Tout à fait. Oui.
Et puis, il vient d'Indonésie.
Tout à fait. C'est l'Asie. Voilà. Le monde du sucre, c'est l'Asie.
C'est vrai que c'est à l'Andalous qui le popularise et qui le vulgarise et qui l'emmène.
C'est la cuisine musulmane. Moi, je dis pas arabe. Ouais. Parce qu'il faut dire musulmane. Parce que les arabes ne sont pas, les musulmans ne sont pas tous arabes. Ouais. Donc, moi, je dis la cuisine musulmane. Et donc, les musulmans l'ont fait connaître au monde. Donc, je ne dis pas qu'ils l'ont créé. Le sucre, non, il a existé bien avant. En Perse et tout. Mais ce sont les musulmans qui l'ont vulgarisé. Surtout en Espagne, le sucre blanc raffiné. Et c'est le plus grand, personnage du sucre, c'est Aboulkassim Zahraoui. C'est lui qui a créé le pastillage, qui a créé le sucre d'orge et tout. Mais ce sont les musulmans.
Vous parlez d'Avicenne et d'Ibn Sina.
Voilà. Ibn Sina, oui, il a la recette des confits, c'est-à-dire les fruits confits, ce sont les musulmans qui l'ont créé, et c'est Avicenne qui donne la vraie recette. Il dit, il faut remplacer l'eau végétale du fruit ou du légume par un sirop de sucre. Parce que le sucre, à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire.
On dévore vos paroles, on mange vos paroles, on a soif de vous entendre encore, on vous retrouve dans un instant.
Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Tout avec Yasmina Selam dans ce voyage extraordinaire de l'alimentation, de la cuisine algérienne, de la gastronomie. Alors ça c'est un peu mon défaut. Moi je suis médecin et bien sûr je suis attiré par tous les grands penseurs et tous les chercheurs. On retrouve entre Avicenne, Ibn Sina, le livre de la médecine que j'ai à la maison, entre Léonard de Vinci et Confucius que vous citez dans votre livre, on retrouve les mêmes choses. On retrouve, par exemple, ces trois géants de la recherche, de la philosophie et de la médecine, on retrouve la même structuration de l'alimentation.
Tout à fait.
La même défense de manger ceci. Vous voulez manger ceci. Comment vous analysez ça? 500 ans avant Jésus-Christ, quand même.
Confucius. Et il dit, n'achetez pas les choses préparées, préparez-les vous-même. Coupez d'une façon régulière vos fruits et légumes. C'est-à-dire, même la présentation avait de l'importance. L'équilibre entre le végétal et le carné dans l'assiette. Donc, un plat ou un élément qui a changé de couleur ou d'odeur, ne le mangez pas. Donc moi je vois que ce sont les recommandations des médecins actuels. Donc cette cuisine saine, elle existe 500 ans avant Jésus-Christ, elle continue, mais l'homme je ne sais pas, il est attiré par tout ce qui est les excès. Et alors, trop de beurre, trop de ça, trop de sucre, ça fait... C'est-à-dire, il fait jouir son palais, mais il oublie sa santé.
En fait, c'est pas l'homme, c'est la consumérisation, oui, la mondialisation, et surtout le capitalisme.
Le capitalisme. Qui fait, manger, consommer. Et alors, consommer sans limite. Alors que non, l'homme c'est quelqu'un qui réfléchit, il doit consommer se restreindre aux choses qui sont bonnes pour sa santé. On n'a pas besoin de manger ces quantités de sucre, ces quantités. Mais c'est fou comment est l'alimentation, le fast food maintenant. Oh, il est en train de tuer. Mais ce qui me fait plaisir, moi, c'est qu'en Algérie, nous avons des niches où la gastronomie traditionnelle est préservée.
C'est encore préservé.
Ces niches sont les mariages, les naissances, le mois de Ramadan. C'est une niche où la cuisine traditionnelle est bien protégée. Et c'est pour mon bonheur. Donc, elle est protégée quelque part. Elle va pas, un jeune, même s'il a 25 ans, même si toute la journée il mange dans la rue, quand il doit se marier, il va demander de la cuisine traditionnelle algérienne.
Alors, dans votre livre qui est extrêmement documenté et que vraiment je conseille aux gens, bien sûr, beaucoup de questions à poser, mais il faut aller vite avant d'arriver à quelques recettes. Vous êtes bien sûr documenté et vous avez dans votre livre quelques éléments de littérature gastronomique. Vous nous parlez à deux trois reprises des tablettes de Yalé, des tablettes babyloniennes. Vous pouvez nous parler un peu de ça?
Alors les tablettes de Yalé, ce sont des tablettes en argile avec une écriture cunéiforme, l'écriture donc babylonienne, et c'est Jean Bottero qui a traduit ces tablettes, et il a donc un livre où il y a toutes les recettes. Et ces recettes ont été réalisées en 2018 à l'université de Harvard, parce que maintenant la gastronomie, elle est dans les universités. Et alors, ils se sont rendus compte qu'on pouvait le reproduire alors qu'elles existent depuis 1700 ans avant Jésus-Christ. Ce qui fait à peu près 4000 ans. Et donc, ils ont pu à quelques éléments près, ils ont pu les réaliser sans aucun problème. Seulement, Jean Bottero, moi, je suis pas d'accord sur certains aspects de sa réflexion. C'est le fait qu'il dise que peut-être le couscous est babylonien. Et il cite une préparation et il dit c'est fait avec des petits... Le couscous n'est pas une pâte. Le couscous est un grain de semoule. Donc, pour moi, non. De toute façon, s'il avait été créé à Babylone, pourquoi il n'existe pas tout le long du chemin qui le mène vers l'Afrique du Nord? Il n'existe nulle part. C'est tout d'un coup, il est là, en Numidie, le couscous, et donc je me dis...
En tout cas, aujourd'hui, les Orientaux, les Moyen-Orientaux ont réglé le problème, parce que quand ils parlent du couscous, ils disent « Al-Maghribi ». Donc là, c'est clair. C'est donc moi, ça vient de chez nous.
Oui.
Alors, un peu de chauvinisme.
Il le faut,
parce qu'on est algérien, quand même. vous parlez d'apoulé. On peut pas ne pas parler d'apoulé. Oui. Le Amazir, le berbère, le premier romancier de l'humanité, qui a décrit les banquets de Rome et de Carthage. Parlez-nous d'apulé.
Apulé. Je veux le revendiquer un petit peu. Apulé, il faut le revendiquer. J'ai rencontré pas mal de personnes qui me disent non, il est carthaginois, il est tunisien, il est ça. Non.
Il est amazir, il est berbère.
Il est amazir, il est berbère.
Il est aussi du théâtre.
Oui.
C'est le premier dramaturge dans l'histoire de la dramaturgie.
Les Métamorphoses et l'Andor d'Apulé. Et son nom en amazir, c'est Afulei. Donc, il est de chez nous. Hein. Il est né à Amdaouresh, il est de chez nous. Et donc, lui, on n'a pas trouvé de recette. Il paraît qu'il a écrit des recettes, mais on n'en a pas trouvé. Mais il a toujours décrit ses banquets et ses rituels de table. Donc, c'est à Foulay. Et puis, on en a d'autres qui ont parlé de recettes algériennes, comme Apicius, par exemple, le poulet à la numide. Le poulet à la numide, moi, je le revendique un petit peu. Même s'il est dans le livre d'Apicius, mais il s'appelle le poulet à la numide. Et on sait que Apicius, pour régénérer son inspiration, eh ben, il venait en Numidie. Et alors, il a des plats à base de dattes, à base de produits du terroir numide. Et donc, je ne sais pas, curieusement, il ne parle pas du couscous. Et je me dis, s'il ne parle pas du couscous, comme c'est une sommité, c'est un notable, donc il n'a pas dû fréquenter les tables paysannes et que le couscous devait être un plat paysan.
Alors, il y a quelques recettes, bien sûr, on ne va pas toutes les faire, mais moi j'ai découvert en contenu que la harira, c'était algérien.
Ben oui.
Alors que pour moi, la harira, c'était marocain.
Ben non, pas du tout. Justement, vous savez, le choix des recettes que j'ai mise dans mon livre.
Marocain avec une frontière, c'est toujours ça. Fait, on revient au début de l'émission. C'est marocain et c'est algérien.
Oui.
Halala, ça veut dire soyeux, vous dites.
Soyeux. Et ça nous vient d'Arabie. Les bédouins du Hijaz mangeaient la harira parce qu'elle est soyeuse. Et donc, même le nom, on ne l'a pas créé chez nous.
Soyeuse, c'est épaisse et qu'elle cale l'estomac. Et qu'elle arrête la faim.
Et donc, le mot harira n'est ni marocain ni algérien. Il vient de l'arabe, de la presqu'île arabe.
Et voilà. Puis l'Afrique du Nord, l'emploi, comme d'autres régions
Comme d'autres régions. Maintenant, il n'existe plus chez eux, ce terme. Ce vocable n'existe plus là-bas, mais il existe en Afrique du Nord. On dit harira.
Alors, parlez-nous aussi de la date fourrée. Oui. La date fourrée, pourquoi c'est une spécificité algérienne?
On a toujours...
On termine sur la date fourrée.
Sur la date. On a toujours eu de la date fourrée dans nos mariages, dans nos fêtes, mais on pensait qu'on les avait créées. Et en fait, peut-être qu'on les a créées, peut-être que c'est Apicius qui les a créées, mais dans le livre d'Apicius, les dates fourrées existent. Elles sont presque faites de la même façon, sauf que lui, il met pas de sucre, il met du miel et du poivre noir.
Yasmina, c'est la mémoire culinaire de l'Algérie, je vous le conseille, notamment pour les fêtes. C'est un livre qu'on dévore, c'est un livre plein de recettes. Vous découvrirez la mémoire culinaire de l'Algérie et en plus, une très grande modestie, parce que dans ce livre, vous donnez des éléments d'information, vous donnez des choses, mais vous dites attention, c'est peut-être pas ça, etc., etc. Vous laissez le lecteur faire son propre jugement et surtout découvrir de magnifiques images. On voit les images, on voit les recettes. Merci Yasmina Sela, merci infiniment d'être passé nous voir.
Merci de m'avoir reçu.
À très bientôt, j'espère.
Inch'Allah.
Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.